Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Apocalypse, au chapitre 12. Apocalypse, chapitre 12. Notre lecture commencera au verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Amen. Amen. Nous voyons dans ce texte que j'ai pris pour introduction qu'il y a plusieurs choses qui ont fait en sorte que ces hommes ont remporté la victoire sur l'ennemi, ont comme récompense le ciel, peuvent rentrer dans la gloire de Dieu, régner avec lui. Il y a plusieurs choses. Premièrement, il nous est parlé du sang de l'agneau. Nous ne sommes pas sauvés par quoi que ce soit d'autre que par le sang de Jésus qui a coulé sur le bois de la croix. Il n'y a que parce que Jésus a donné sa vie sur la croix que nous pouvons être pardonnés de nos péchés et rentrer dans le ciel. J'aime à prendre cette image toute simple. Le ciel est un endroit pur, et ce n'est pas une image là, est un endroit pur, saint, propre. Il n'y a rien de souillé qui y soit jamais rentré et qui n'y entrera jamais. Et nous, dans nos vies, nous sommes tous, la Bible le déclare, souillés, salis par le péché. Vous êtes d'accord jusque là? Qui peut dire « je n'ai jamais menti » ? Vous voyez ce que je veux dire ? On est tous pécheurs. On a tous souillé notre âme, souillé notre cœur à cause du péché. Et à cause de cela, le ciel nous est fermé. Personne ne peut dire « je mérite le ciel ». Moi, je vais aller au ciel parce que je le mérite. C'est pas possible. Il n'y a que parce que Jésus a donné sa vie sur le bois de la croix pour nous, et bien qu'on peut être sauvé, lui qui n'avait jamais péché. La Bible nous le dit encore, c'est le seul qui n'a jamais été souillé par le péché. C'est le seul qui méritait d'aller au ciel. Et le seul qu'il méritait, il a choisi de mourir sur le bois de la croix, d'aller lui-même dans le séjour des morts à notre place. Mais puisqu'il était sans péché, il a triomphé, il a été ressuscité par son Père. Il a offert son sang, il a montré son sang au Père dans le ciel. Il a dit, voilà la preuve de ma mort. J'ai donné ma vie pour eux. Si je me suis offert en sacrifice, c'est pour eux. C'est vie pour vie. Et tous ceux qui croient en la mort de Jésus sur la croix pour eux, en sa résurrection, et qui le confessent de leur bouche, alors ils sont sauvés. C'est ce que nous dit Romains chapitre 10 et verset 9. Entre autres, il y a beaucoup d'autres textes qui nous le rappellent et qui le confirment. C'est en croyant de tout notre cœur et en confessant de notre bouche qu'on est sauvé et qu'on obtient le pardon de tous nos péchés. Une fois lavé de nos péchés, on peut rentrer dans le ciel. Donc il y a bien sûr, oui, le sang de l'agneau, le sang de Jésus qui a coulé, qui nous ouvre les portes du ciel, qui nous donne d'être sauvés et de vaincre le mal. Mais, il est dit aussi, et à cause de la parole de leur témoignage. Deux choses, le sang de Jésus, mais aussi le témoignage dans leur vie. Saviez-vous que votre témoignage, votre manière de vivre, toutes ces choses, votre témoignage tout simplement, parle pour vous? Je croyais qu'il suffisait de croire en Jésus et après je faisais ce que je voulais pour être sauvé. La Bible nous dit qu'il y a un témoignage à rendre. Et c'est à cause de ce témoignage, de ce que ces témoignages racontent pour ces personnes-là, qu'ils peuvent être sauvés. On n'est pas sauvé par les œuvres, ça c'est sûr. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais le Seigneur attend de nous un témoignage une fois qu'on l'a rencontré. Il attend qu'on vive en conformité à sa parole, qu'on lui obéisse. Est-ce que vous me suivez toujours jusque-là? Est-ce que c'est pour vous important? Est-ce que vous prenez au sérieux cette affaire de rendre un bon témoignage sur la terre? Un témoignage qui honore Dieu? C'est une question qu'on doit se poser. Saviez-vous que vous êtes sauvés, que nous sommes sauvés, pour être les témoins de Jésus-Christ sur la terre? Un pasteur un jour a raconté cette affaire. C'est qu'avant de se convertir, il roulait toujours sans la ceinture. Il roulait toujours sans la ceinture de sécurité. On sait qu'en France, la ceinture de sécurité est obligatoire depuis quelques années. Et lui, il ne voulait jamais la mettre. Et vous savez que sur certaines voitures, il y a un petit témoin qui est là et qui s'éclaire quand la ceinture n'est pas mise. Et les voitures encore plus récentes, elles se mettent à faire bip, bip, bip. Elles vous cassent les pieds jusqu'à ce que vous enclenchiez le verrou de la ceinture. Et ça sonne, ça sonne. Et moi, ma voiture, elle sonne de plus en plus fort et de plus en plus vite. Au début, ça fait bip, 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 bip. Et puis au bout d'un moment, ça fait bip, 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 bip. C'est très, très fort, c'est gênant. Elle dit, bon, allez, on abdique. Il y a ce témoin qui est là pour nous rappeler qu'il y a un danger. Et Dieu a sauvé chacun d'entre nous qui avons confessé son nom, publiquement, par les eaux du baptême aussi peut-être, ou on est en train de le faire. Dieu nous a sauvés pour qu'on soit des témoins dans ce monde. Pour que les gens soient avertis qu'il y a un danger qui les guette. S'ils ne se repentent pas de leurs péchés, ils ne pourront pas rentrer au ciel parce qu'on ne mérite pas le ciel. On le reçoit par grâce, parce que personne ne peut mériter le ciel. Il n'y a pas de système de balance, c'est mes erreurs, mais mes bonnes actions qui se contrebalancent et qui font que je peux mériter ou pas. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Dieu il donne les mêmes chances à chacun. Et il dit, la seule chose à faire, c'est de se repentir, de croire en Jésus et d'accepter sa grâce, son salut, gratuitement, simplement en croyant qu'il nous aime. Il n'y a que ça à faire. Et nous qui sommes sauvés, les témoins de Dieu. Les témoins de Jésus-Christ. Et nous disons au monde, il y a un danger. Si jamais vous ne vous repentez pas, si jamais vous n'obéissez pas à Dieu, vous ne pourrez pas rentrer dans le ciel et vous irez en enfer. Et c'est pas pour embêter les gens qu'on est là et qu'on dit ça. Ce n'est même pas pour embêter les gens que la Bible le dit en premier. C'est par amour parce que Dieu nous aime. Et c'est encore par amour parce que Dieu aime le monde qu'il garde ses enfants sur la terre. Vous croyez que c'est quoi le mieux ? De continuer à vivre sur la terre ? D'aller visiter Stockholm, ou bien d'être dans le ciel pour l'éternité. Moi, j'ai hâte d'être au ciel. Vous savez quoi? Au ciel, plus de factures. C'est une bonne chose. Au ciel, plus de maladies. Au ciel, plus d'examens. Au ciel, etc., etc. Plus de bobos, plus de pleurs, plus de tristesse, que de la joie pour l'éternité. Joie sur joie. Et pas une petite joie, une joie extrême. Une joie incomparable qu'il ne se connaît pas sur la terre. On y goûte un peu quand on est dans la présence de Dieu, mais elle sera sans voile, sans miroir, elle sera directe dans le ciel. Ça va être comme un tsunami d'amour qui va nous envahir, et puis ça va être génial. Vous avez hâte? Moi j'ai hâte. Moi je dis vivement, vivement, vivement. Mais Dieu nous a laissés sur la terre pour qu'on soit des témoins. Il n'y a aucune autre raison pour laquelle nous soyons sur terre, si ce n'est que Dieu veut nous utiliser pour avertir les gens. Et c'est une mission qu'on doit prendre au sérieux. Elle est difficile quelquefois, mais elle est toujours possible par la grâce de Dieu. C'est très très important de la réaliser. Et j'ai noté trois manières de rendre témoignage. Trois choses que Dieu nous a données, dont nous disposons pour pouvoir rendre témoignage. Premièrement, mes paroles. Je peux être un témoin par mes paroles, ce que je dis. Deuxièmement, par mes actes. Parce que si j'en reste aux paroles, ça va être incomplet. Par mes actes, je rends témoignage. Et puis j'aimerais terminer avec cette troisième chose, c'est par ma renommée. Parce que dans la parole de Dieu, il est parlé de renommée. On va voir ça. Premièrement, mes paroles. Je rends témoignage par mes paroles. Dans Luc chapitre 6, verset 45, je le lis pour vous, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Pourquoi je rends témoignage, et c'est important d'avoir un bon témoignage au niveau de ces paroles? Parce que normalement c'est de l'abondance du cœur que ma bouche va parler. C'est de l'abondance du cœur que ma bouche va parler. Prenez avec moi dans Jacques, après Hébreux, Jacques. Jacques, chapitre 3, à partir du verset 1. On va faire une assez grande lecture, 9 versets. Jacques, chapitre 3, verset 1. Mes frères et mes sœurs, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme ou une femme parfaite, capable de tenir tout son corps en bride, si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires, qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. Et on pourrait continuer quelques versets, deux versets qui nous parlent encore de la langue. La langue, c'est un petit membre qui peut embraser une grande forêt. Vous êtes d'accord avec moi? On peut dire de très belles choses. Des fois, moi, petit, on nous faisait apprendre par cœur des poèmes. On vous a fait pareil à vous? Ce supplice? Le soir, vous étiez à la maison, le lendemain, il y avait un examen, il fallait apprendre par cœur la poésie. Et on vous faisait apprendre des fois des très très belles choses. C'est vrai que des gens sont doués avec les mots. On critique souvent le rap, hein, le rap. Mais en vrai, le rap, c'est, à la base, c'est du poème, quoi. C'est juste, sur un fond musical, on parle, on fait le poète, quoi. On raconte des choses. Et certains l'utilisent pour déverser toute leur amertume. D'autres l'utilisent pour parler de choses profondes. Peu importe, je ne veux pas rentrer dans ce débat, mais la langue est capable de dire des choses merveilleuses, belles. Mais la langue est capable aussi, eh bien, d'annoncer des choses terribles. Dans Jérémie, on voit même des gens qui veulent tuer le prophète, Jérémie, par la langue. Et ils disent, tuons-le par la langue. La langue est capable de faire des choses très très belles et des choses horribles. On peut rendre quelqu'un dépressif à force de lui dire qu'il est un bon à rien, qu'on ne l'a pas voulu, qu'il n'est pas à sa place, en l'accusant, en lui disant toujours des paroles de mort. Et autant on peut encourager. Et puis réconforter un cœur, réconforter même tout un corps tout entier, parce que le moral va être encouragé, restauré à cause de paroles douces, de paroles d'encouragement, de paroles eh bien de bons témoignages, des choses comme cela. La langue, faisons attention. Par notre manière de parler, on rend un témoignage. Dans Romains 14, verset 1, il est dit « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi, ne discutez pas sur les opinions. » Quelquefois, on parle de manière passionnée parce qu'on est convaincu de quelque chose et l'autre, il est convaincu d'autre chose et on s'oppose et au bout d'un moment, on se fait la guerre. En parole, mais on se fait quand même la guerre. Le Seigneur dit « Ne discutez pas les opinions. » Je pourrais le dire comme ça, « N'utilisez pas votre langue pour vous disputer sur les opinions. » Notre texte dit « Je vous le dis au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils ont proférée. » Et au contraire, dans Hébreux 13, 15, « Par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Veillons à la manière dont nous utilisons notre langue. Vous êtes d'accord avec moi? Vous y veillerez? Veillons à ce qu'on dit avec notre langue. Il y a un texte qui parle des grossièretés. Un chrétien, un enfant de Dieu, ne peut pas dire de grossièreté. La Bible dit de ne pas en dire. Alors soit on interprète la parole comme on veut, soit on obéit à la parole de Dieu. C'est très très important de veiller à cela. À ce que de notre bouche, il sorte des louanges, des bénédictions, des encouragements, de l'adoration, toutes sortes de choses merveilleuses. Et qu'en aucun cas, il ne sorte des critiques, qu'il ne sorte des malédictions, des choses comme ça. Matthieu 5, 37 va dire quelque chose aussi de très très important. Que votre parole soit oui, oui, et non, non. Si s'arrêtait là, on pourrait dire, bon, je vais veiller, mais il dit même, ce qu'on y ajoute vient du malin. Quelquefois, on voit des gens, ils ont tellement peu confiance en eux-mêmes, qu'ils se mettent à dire, je te le jure, je te le promets, mais je t'assure, mais c'est vrai, mais... Et ils rajoutent au oui, toutes sortes de choses. Ou au non, toutes sortes de choses. Et ils voudraient presque dire, mais celle-là, ta parole, elle est vraie. Comme si les autres, elles pouvaient être mises en cause. Non, c'est très simple. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Le reste, ça ne sert à rien. Te justifie pas. Apprends à être un homme, une femme de parole. Autrefois, quand on serrait la main, quand on disait quelque chose, la parole d'un homme avait une valeur. Aujourd'hui, on dit beaucoup, les paroles s'envolent, les écrits restent. Et on fait beaucoup de contrats. Et même dans les contrats, on va chercher les petites lignes pour piéger les gens. Le Seigneur dit arrête. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ça s'arrête là. Pas besoin d'épiloguer, pas besoin de rajouter. Quand tu dis au Seigneur oui, ça doit être oui. Quand tu dis non, ça doit être non. Deuxième point, les actes. Et au mot acte, je rajouterai le mot œuvre, les œuvres. Puisqu'il est parlé dans la parole de Dieu souvent des œuvres. Je l'ai dit, si je m'en tiens à quelques paroles, ça reste en surface. Mais si j'ajoute les actes, les œuvres aux paroles, alors ça peut devenir profond. Si je dis à quelqu'un « je t'aime », est-ce que c'est bien? Si je regarde mon épouse et je lui dis « chérie, je t'aime », elle va être contente, non? Mais si je lui dis en la battant, je n'allie pas les paroles avec les actes. Vous ne donnez pas de commentaires, je crois que vous pensez très fort quelque chose, c'est que ça ne va pas avec. C'est pas possible. Que les paroles soient accompagnées des actes. Si je lui dis « oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime », mais je la laisse toujours toute seule à faire le ménage, toujours toute seule à faire la vaisselle, toujours toute seule à faire les courses, toujours toute seule à élever les enfants, à changer les couches. Je sais de quoi je parle, hein. Si je dis des belles choses, voilà, chérie, je serai toujours avec toi, je serai ton soutien et tout, etc. Je t'abandonne pas, t'inquiète pas, je veille sur toi, mais que je suis absent. Je vais toujours m'amuser. Je vais au bowling. Je vais ailleurs. Est-ce que c'est mal d'aller au bowling? Moi, je crois pas. Ça fait longtemps que je suis pas allé, mais je me suis fait plaisir au bowling. Viser, apprendre à viser, c'est pas mal en soi. Mais si je passe mon temps avec mes amis, alors que ma femme n'en peut plus, elle est submergée par le repassage, etc., je peux pas me retrancher derrière. De toute façon, ça, c'est le travail des femmes. Ça marche pas. Si on est prêt à dire « je t'aime » à quelqu'un, il faut que dans nos actes, on soit prêt à être avec la personne. Ne jamais dire « je t'aime », c'est un non-sens. Les paroles sont importantes. Mais les paroles sans nos actes sont vides. Elles n'ont aucune profondeur. Un jour, un père avait deux fils. Il va vers ses deux fils, vers le premier, il lui dit « tu sais, dans le champ, il y a du travail. Est-ce que tu veux venir m'aider cet après-midi ou demain ?» Et le fils a dit « non, tu sais, papa, j'ai beaucoup de travail. Je peux pas, je suis occupé, tu comprends. Je suis un jeune et je suis très occupé. » Et le père a dit « ok, d'accord, bon ben tant pis ». Il allait vers le deuxième fils et lui a dit « tu sais, j'ai du travail demain dans les champs, est-ce que tu pourrais venir tout ça ?» Et le deuxième a dit « oui, oui, papa, demain tu peux compter sur moi, je serai avec toi, ou tout à l'heure, je sais plus ». Puis le moment où il y avait le travail à faire, le père est allé au champ, et le premier fils qui avait dit non, entre-temps il s'est senti repris dans son cœur. Il s'est senti repris et il a dit « je peux pas laisser mon père tomber comme ça ». Et il est allé au champ et il a aidé son père. Le père a été tout surpris de voir son fils qui avait dit non, venir quand même. Mais le deuxième qui avait dit oui, eh bien il l'a attendu. Et il n'est pas venu. Par négligence, par paresse, ou par mensonge avait-il parlé, j'en sais rien. Mais en tout cas, il n'est pas venu. Quelquefois, on dit des choses. On dit oui et on ne fait pas. Ça arrive. Ce n'est pas bon. Quelquefois, on fait non, on dit non, mais si jamais on est repris dans notre cœur, il vaut mieux faire. Peu importe les paroles que vous avez dites, l'important, c'est d'agir comme il faut. Et si vous avez dit une parole blessante, si vous avez dit une parole qui n'était pas la bonne parole, du moment que vous sentez repris, demandez pardon et faites la chose. Les actes sont très importants. Les paroles, ça suffit pas. Et quelquefois, je vais même dire les actes parlent mieux que beaucoup de paroles. Veillons là-dessus. Dans Jacques, chapitre 2, verset 26, je vous le lis encore une fois. « Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. » Peut-être avez-vous la foi pour dire « Oui, Jésus, je crois en toi, faire de belles louanges, de belles adorations. » Mais derrière, le Seigneur attend des réponses concrètes, des actes. Imaginez-vous que Dieu ait dit « Oui, je vous aime, mais qu'il n'ait jamais envoyé Jésus-Christ. » On ferait quoi? Ça aurait rien changé du tout. On serait perdu. Oui, ajouter à la foi les œuvres. Comme je l'ai dit, on n'est pas sauvé par les œuvres. Mais je rajouterai qu'il ne faut pas oublier qu'on est sauvé pour des œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé pour des œuvres. Le Seigneur a préparé des œuvres, des bonnes œuvres d'avance, afin que nous les pratiquions. À nous de chercher sa volonté pour l'accomplir, et nous serons épanouis en accomplissant la volonté de Dieu en lui obéissant. Apocalypse 14, 13, j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car, c'est très très important, car leurs œuvres les suivent. » On rendra compte pour nos paroles vaines, mais on rendra compte aussi pour nos œuvres. Chacun rendra compte pour lui-même, car nos œuvres nous suivent. Et bien sûr, ça peut faire peur pour certains, mais là, il est dit heureux. Heureux. Savez-vous qu'il y aura des récompenses dans le ciel? On n'en parle pas trop, et c'est bien comme ça, mais est-ce que vous vous souvenez, est-ce que vous avez quand même ça à l'esprit? C'est que dans le ciel, il y aura des récompenses pour toutes les œuvres qu'on aura faites, parce que Dieu nous aura dit de les faire. Toutes les œuvres qu'on aura faites aussi avec joie, parce que faire sans joie, ça ne sert à rien. Mais quand on fait les choses avec joie pour le Seigneur, alors il y a une récompense qui est donnée. Qu'est-ce qu'on aura comme récompense? Une belle image? Un bon point? Qu'est-ce qu'on aura comme récompense? Vous croyez que c'est des petites récompenses? Ou est-ce que c'est des choses vraiment magnifiques dans le ciel qui nous attendent? On ne va pas faire les choses pour les récompenses, mais si Dieu en parle, pourquoi ne pas nous-mêmes nous en souvenir? Il y aura des récompenses. Troisième chose, j'ai parlé de la renommée. Parce que dans les Écritures, il est parlé de la renommée. Saviez-vous que Dieu a une renommée? C'est une question. Saviez-vous que Dieu avait une renommée? Est-ce que c'est écrit? Si je vous en parle, c'est que c'est écrit. Ô Éternel, ta renommée demeure pour l'éternité, et ton renom, ô Éternel, subsiste d'âge en âge. Psaume 135, verset 13. Nos actes engendrent une renommée, c'est sûr. Tous nos actes, nos paroles, engendrent une renommée. Et la Bible nous avertit et nous demande de veiller sur notre renommée. Il est dit que la renommée d'un homme est importante. L'exemple parfait, bien sûr, c'est Jésus-Christ. Dans Matthieu 9, 28, lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» C'est-à-dire les guérir. « Oui, Seigneur, lui répond-il. » Alors, il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. La renommée de Jésus s'est répandue autour de lui et de partout. Dans Luc 5, 15, sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Oui, Dieu le Père, Dieu dans toute sa Trinité a une renommée, mais Jésus a une renommée sur la terre. Et sa renommée s'accroissait, se répandait partout, sur toute la surface du pays, autant qu'on pouvait raconter. Et des gens faisaient des kilomètres à pied pour pouvoir venir voir Jésus. Ils amenaient sur eux, sur leurs épaules, dans des brancards, ils amenaient des malades pour qu'ils les guérissent. Au point qu'un jour, quatre hommes ont porté un paralytique sur le toit, puisque la maison ne pouvait plus être atteinte, on ne pouvait plus rentrer dans la maison. Et vous vous souvenez de cette affaire, quand ces hommes ont pris le paralytique, ils l'ont monté sur la terrasse, ils ont enlevé le toit, ils ont défait le toit, ils ont passé le paralytique en plein milieu de la salle. Imaginez-vous que d'un coup, on voit de la poussière tomber, on entend du bruit, et que ce soit des hommes qui fassent descendre un paralytique devant, là. Jésus est là, il est en train de prêcher à ma place. Et puis il voit la foi de ces personnes, il parle à cet homme et l'homme est guéri. Parce que la renommée de Jésus s'était accrue. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne renommée ça. Jésus nous a donné un exemple. Il avait une bonne renommée, Jésus. Sa renommée s'accroissait. Et de la même manière, le Seigneur nous demande d'avoir une bonne renommée pour chacun d'entre nous. Dans Romains chapitre 1 verset 8, « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous. » Et là, il est parlé des premiers chrétiens. « De ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Les premiers chrétiens avaient compris qu'ils pouvaient rendre témoignage par une bonne renommée. Et ils faisaient tout pour garder cette bonne renommée. la foi de ces personnes, eh bien, était renommée dans tout le monde entier. Vous savez pourquoi c'était dans le monde entier? Est-ce que c'est une expression pour dire oui très loin? Ou est-ce que c'était vraiment dans tout le monde entier connu? C'était effectif. Vous savez pourquoi? Parce qu'à cet endroit, il y avait beaucoup de passages et de commerces. Du coup, des gens de passage entendaient la foi, remarquaient la foi dans cette église-là, dans ce lieu-là. Et quand ils repartaient, ils racontaient ce qu'ils avaient vu chez les Romains, qui avaient cru au Seigneur Jésus, qui étaient fervents, qui avaient une foi ferme, une foi vivante, une foi qui se manifestait, qui se voyait au dehors. Est-ce que votre foi se voit au dehors? Au point qu'on dise, cet homme, cette femme, c'est un vrai croyant. Je lis un livre en ce moment, un livre qui parle d'une femme qui a été enfermée plus de 30 mois dans un conteneur à cause de sa foi. C'est ce que c'est un conteneur. Il y a les conteneurs maritimes là, qui font 6 mètres sur quelques mètres de large et qu'on entasse pour transporter les choses de pays à pays en bateau. Et il y a un centre en Érythrée, là où il y a la persécution, où on stocke ces conteneurs et ça sert de cellule pour torturer les femmes et les hommes qui ont la foi ou bien qui sont emprisonnés. Il y a des prisons comme ça. C'est pas comme les prisons d'aujourd'hui, j'ai prêché dans les prisons, je peux vous dire qu'il y a un certain confort. Alors que là-bas, pour toilette, il n'y a qu'un seau dans ce conteneur, et par conteneur, ils peuvent être jusqu'à 18-19 même. Par conteneur. Et cette femme s'est retrouvée enfermée, battue à mort, etc. Et même dans la prison, elle avait une foi qui était renommée. Et on savait, on lui demandait d'écrire des études bibliques qu'elle faisait passer avec des chats. Elle leur donnait, elle leur a attaché un tout petit bout de ficelle autour du cou et elle les faisait passer par la toute petite fenêtre qui était comme seule lumière dans le conteneur. Elle les faisait passer et puis le chat allait manger ailleurs et puis les prisonniers les appelaient. Ils faisaient passer les messages d'encouragement comme ça. Et aujourd'hui, cette femme est au Danemark et elle rend témoignage dans des conférences. Pendant plus de 30 mois, battue. Et si elle est sortie, si elle a été relâchée, c'est parce qu'elle est tellement, elle a tellement été frappée qu'elle était hospitalisée, sinon elle mourrait sur place. Et par peur des représailles, le gardien de la prison, il a accepté qu'elle aille dans un hôpital. Et Dieu a permis qu'elle puisse s'enfuir, sa fille avec elle. Est-ce que notre renommée se voit à l'extérieur? Moi, je prends des leçons de tous ces textes. Proverbe 27-21, le creuset est pour l'argent, le fourneau pour l'or, mais l'homme, un homme est jugé d'après sa renommée. Un homme est jugé d'après sa renommée. 1 Timothée 3-7 nous parle des personnes qu'on choisit pour servir Dieu, pour rendre un service, pour entrer dans un service dans l'assemblée. 1 Timothée 3-7, donc il faut aussi que l'ancien, que l'évêque, que le diacre reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Avoir une bonne renommée chez nous, c'est facile. Mais avoir une bonne renommée au dehors, c'est plus difficile. Vous avez remarqué sur la route, les gens qui vous font des queues de poisson, comme on dit, vous avez tendance à dire « Hé, alors, comment tu conduis ?» C'est difficile des fois de ne pas s'énerver, de ne pas répondre. Hein. C'est tentant aussi des fois de laisser sa foi de côté, puis de faire un peu comme tout le monde, de magouiller comme les autres, de trafiquer, de tricher, ou de parler comme les autres, d'agir comme les autres. C'est pas facile. Quelqu'un m'a dit dernièrement que dans son travail, il y avait de la magouille et qu'on trafiquait les prix, qu'on volait les gens, qu'on mentait aux gens pour faire du bénéfice. Il m'a dit, moi je veux pas être comme ça. Quitte à perdre l'emploi, quitte à quitter cet emploi. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut du courage pour dire aux personnes, aux patrons, moi je ne marche pas dans vos combines. Moi je ne marche pas comme vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Avoir une bonne renommée jusqu'au bout. Être fidèle jusqu'au bout. Je veux faire une différence entre renommée et rumeur. Vous comprenez ce que je veux dire? Jésus avait une bonne renommée, mais on a fait courir des rumeurs sur lui. Et les rumeurs, elles sont inévitables. Les rumeurs, quand on marche droit, elles courent bon train. Elles vont bon train. Dans Jean 7, verset 12, il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet, au sujet de Jésus. Les uns disaient, c'est un homme de bien, mais d'autres disaient, non, il égare la multitude. Vous savez, les rumeurs, on ne pourra jamais les empêcher. Malheur à ceux par qui les rumeurs arrivent, parce qu'elles créent des scandales. Une rumeur, c'est quelque chose d'incertain, c'est un oui-dire, c'est ce qu'il dit. Mais une renommée, c'est quelque chose d'avéré. Comprenez la différence? Les rumeurs, de toute façon, ça va y aller. Et il est même dit dans Matthieu 5, 11, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Et qu'un chrétien ait des rumeurs qui courent sur lui, des choses fausses qui courent, il faut s'y attendre dans le monde. Mais par contre, une renommée qui reste et qui demeure honorable, parce qu'il peut y avoir des mauvaises renommées. Qu'on puisse ne jamais avoir une mauvaise renommée sur nous. Je conclurai, vous avez vu que c'était simple, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. On est la lumière du monde. Le Seigneur, vous nous utilisez comme cette lumière qui dit il y a un danger. Il veut nous utiliser comme la lumière du monde. Il a préparé des bonnes œuvres et par ces bonnes œuvres, il veut que sa renommée s'accroisse, grandisse et devienne évidente. Vous savez, quand on se fait appeler chrétien, en vrai ça veut dire, étymologiquement parlant, ça veut dire petit Jésus, petit Christ. Et si je dis je suis chrétien et que je n'ai pas le comportement, le témoignage qui va avec, je déshonore celui de qui je porte le nom. Et il me faut faire attention. À toujours veiller. Et de mes propres forces, je ne vais pas y arriver. C'est pourquoi il faut entretenir une intimité avec Dieu, prier, lire la parole, parce qu'elle va nous donner la force de tenir bon dans les moments de tentation, dans les moments d'épreuve. Et je vais arriver à avoir un bon témoignage, une bonne renommée. C'est pas facile de pas crier, de pas se rebeller quand on nous impose des choses injustes. Mais si le Seigneur nous aide, alors on va arriver à avoir la bonne attitude, de la patience, de la force pour pouvoir résister aux accusations fausses, à toutes ces choses, pour pouvoir résister à toutes les tentations et dire « Moi, je veux une bonne renommée. Pourquoi ? Parce que ma vie est attachée au nom de Jésus. Ma renommée est attachée à la renommée de Jésus. Et je veux que Jésus il soit fier de moi, son enfant. Pas pour mériter le ciel. Je ne suis pas sauvé par les œuvres, mais parce que je suis sauvé pour des œuvres. On s'en souviendra ? Amen. Je parlerai une seconde à quelqu'un qui peut-être serait nouveau dans ce lieu. Je ne veux pas vous laisser de côté, vous qui vous dites, mais ça ne me concerne pas, moi je ne suis pas chrétien. Je ne connais pas Jésus, je ne connais pas la Bible. J'aimerais simplement vous poser trois questions. Vos paroles que vous avez dites vous condamnent-elles ? Est-ce que vous avez peur de Dieu parce que vous savez que vous avez dit des choses mauvaises sur lui ? Vous l'avez critiqué, vous avez critiqué les chrétiens, vous avez dit du mal, vous êtes moqué des chrétiens, vous êtes moqué du petit Jésus ou du grand Jésus, vous êtes moqué de Dieu ? Est-ce que vos paroles vous accusent devant Dieu et vous avez peur de Dieu parce que vous savez que vous n'êtes pas clair ? Est-ce que vos actes, ce que vous avez fait dans votre vie, vous fait honte ? Est-ce que si on regardait à votre témoignage, sans parler de chrétienté ou de foi, est-ce que votre témoignage, vos actes, votre manière de vivre vous fait honte parce que vous avez fait des choses qui vous font rougir? Peut-être que c'est votre cas. Avez-vous une renommée qui, comme cette femme qui s'est jetée aux pieds de Jésus, vous colle à la peau? Une renommée qui vous colle à la peau, une renommée qui vous fait honte? Il y a une femme un jour qui s'est jetée aux pieds de Jésus, qui a pleuré, pleuré, pleuré. Et des gens ont dit, ah, s'il connaissait, s'il était prophète, lui, s'il était inspiré de Dieu, s'il connaissait Dieu, ben, il saurait de quelle espèce est cette femme. Parce qu'on savait que cette femme, elle avait commis adultère, elle a fait tant de choses. On savait, ça s'était vu, tous ses péchés, toutes ces choses dont elle rougissait. Est-ce que vous êtes un peu comme cette femme qui était là accusée? Est-ce qu'on pourrait dire du mal de vous parce que votre renommée vous précède? On sait que vous êtes un voleur, un menteur, ou bien quelqu'un qui ne tient pas sa parole, ou bien quelqu'un qui a fait des choses horribles. Peut-être avez-vous honte à cause de la renommée que vous avez. J'aimerais vous encourager.
et ne pas vous laisser repartir avec ces choses. Vous dire que si ces choses sont les vôtres, si c'est votre cas, Jésus est mort à la croix pour vous. Et qu'à cause de sa mort, à cause du fait qu'il est ressuscité, nous avons la preuve qu'on peut repartir à zéro avec Dieu. Parce que Dieu nous aime. Qu'importe notre renommée, qu'importe les paroles. Oh, des gens se sont moqués à la croix de Jésus. Il y avait même deux brigands qui l'ont insulté à Jésus. Leurs paroles ont été honteuses. Et pourtant, l'un d'entre eux, puisqu'il s'est repenti, puisqu'il a demandé pardon, il a reconnu ses fautes et qu'il a supplié Jésus de lui venir en aide, il a obtenu le pardon et il a pu rentrer dans le ciel avant de mourir. Peut-être vos actes, je ne sais pas. Peut-être vous avez fait des choses, vous ne voudriez pas que ça se sache. Dieu l'a vu. La bonne nouvelle, c'est qu'il vous aime quand même. Si vous lui demandez pardon, même vos actes, il est prêt à vous les pardonner. Paul a fait tuer et enfermer des chrétiens. Et pourtant, Jésus s'est révélé à lui et l'a utilisé comme apôtre. Et quand on lit les textes, on voit qu'il avait l'assurance d'être sauvé et pardonné et d'aller au ciel. Peut-être que c'est la renommée, comme je l'ai dit. Qu'importe votre renommée, le Seigneur va vous donner du courage. Non seulement pour vous humilier devant lui, lui dire pardon. Oui, ça s'est même su tout ce que j'ai fait. Et le Seigneur peut vous pardonner, vous dire, mais moi je te pardonne, vous donner la paix dans le cœur. Ôtez votre honte, y mettre sa paix, une nouvelle dignité, celle de Jésus. Parce que lui a été sans péché, c'est pour toi, pour moi, qu'il est mort à la croix. Et cette renommée, il l'enlève. Il va même nous aider à chacun à régler les mauvaises actions qu'on aurait faites. On a peut-être volé quelqu'un, il va nous aider à rendre ce qu'on a volé. On a peut-être menti à quelqu'un, il va nous aider à dire la vérité enfin. Ce mensonge qui nous ronge, il va nous aider à le régler. Et toutes sortes de choses, on avait peut-être des dettes, il va nous donner un travail ou ôter notre paresse pour qu'on ait envie d'aller travailler. Des fois, c'est de la paresse, des fois, c'est simplement la crise. Dieu, il ne connaît pas la crise. Il pourra pourvoir à vos besoins pour que vous puissiez régler vos dettes et avoir la tête haute à nouveau et dire, ça y est, ma vie est en règle, déjà avec Dieu, mais aussi avec les hommes. Et vous pourrez dire, oui, c'est vrai, autrefois, j'étais comme cela, mais aujourd'hui, Dieu a changé mon cœur, il a changé ma vie. Et ce qui m'était impossible de vivre dignement, aujourd'hui Dieu me donne la capacité de le faire. Comment ? Eh bien au travers de sa parole, dans la prière, au travers des frères et sœurs que j'ai rencontrés à l'église, qui m'aimeront, qui m'aiment et qui m'aident. Amen. Parce que quand on est enfant de Dieu, on est donné à une famille, on est inclus dans une famille, on est tous concernés les uns les autres par la progression, les progrès de chacun. Et ensemble, on prie les uns pour les autres. Et on s'aime les uns les autres parce que Dieu nous aime alors qu'on ne le mérite pas. On n'attend pas que l'autre il le mérite. Je t'aime, mon frère, ma sœur, parce que tu as demandé pardon pour tes péchés. Tu es de ma famille, ensemble on avance. Ensemble, au pas du troupeau. Tu es faible, je t'attendrai. Je vais pas courir devant sans penser à toi. Je vais prier avec toi, je vais jeûner avec toi, je vais lire la parole avec toi. Tu auras des questions, tu me les poses et on cherchera la réponse ensemble. Et on va avancer. Plus personne n'est tout seul dans le royaume de Dieu. Ça ne doit pas être comme ça. Et ensemble, on va avancer. Si vous avez envie de faire partie de cette famille, si vous avez envie de vivre cette vie, alors dans votre cœur, pendant la prière, vous dites au Seigneur, « Seigneur, je veux vivre ces choses. Je m'engage avec toi, je veux te suivre, tu vas m'aider. » Notre Dieu, notre Père, je veux te dire merci pour ta parole. Merci parce que tu as fait de nous des ouvriers dans ta moisson. Tu as fait de nous des personnes qui travaillent pour toi alors qu'on n'est pas digne. On était salis, on n'était pas propre à travailler avec toi, pour toi, à rendre témoignage pour toi, à porter ton nom sur nos vies. Mais tu nous as quand même choisis, tu nous as sauvés simplement parce que nous avons cru, que nous avons confessé nos péchés et que nous avons choisi d'obéir. Nous voulons te dire merci de nous avoir donné l'opportunité, la grâce, le privilège d'être des enfants de Dieu. Oui, Seigneur, notre vie est entre tes mains. Au-delà de dire « Je te loue, Seigneur », nous voulons aussi mettre les actes en conformité avec nos paroles et t'obéir pour le restant de nos jours. Sois le maître, sois le roi de nos vies, le Seigneur des Seigneurs. Ce repas que nous allons prendre, qui nous aide à nous remettre en question, Seigneur, pour mieux marcher avec toi. Si nous avons péché, nous te demanderons pardon et nous reprendrons la route, Seigneur. Et nous croyons que par ta force, par ta puissance, par ton amour, nous allons tenir bon jusqu'au bout, parce que tu vas nous secourir et nous aurons l'intelligence de te demander du secours quand ça n'ira pas. Oui, Seigneur, sois béni encore, parce que ton amour n'est pas en fonction de nos compétences ou de nos efforts. Ton amour est éternel et inchangé, inchangeable. Merci encore de nous avoir aimés, d'avoir envoyé ton Fils Jésus. Que ton nom soit béni, Père. Amen. Et peut-être, Seigneur, y a-t-il quelqu'un qui a fait une démarche dans son cœur? Est-il intéressé par cette bonne nouvelle de pouvoir repartir à zéro avec toi, de pouvoir avoir le ciel comme opportunité, comme espérance, Seigneur? Tu le bénis, tu le visites, tu lui donnes la conviction qu'il est sur la bonne voie. Peut-être y aura-t-il des gens qui chercheront à le décourager, à lui dire qu'il ne fait pas, qu'il fait fausse route, qu'il se trompe, que c'est pas la peine. Donne-lui la conviction, Seigneur, pour qu'il reste sur ce chemin et qu'il découvre combien tu l'as aimé et combien tu es prêt à l'aider dans le restant de ces jours. Donne-nous à chacun la sagesse aussi de veiller les uns sur les autres, de ne pas nous surveiller, mais de veiller, de nous aimer, de nous encourager, de nous édifier des manières dont tu as décrites, que tu as décrites dans ta parole. Oui, sois béni, Père, sois béni, mon Dieu, mon roi. Amen. Amen.